Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. L'accélération du retrait de la MONUSCO à partir de décembre 2023 devient une nécessité pour apaiser les tensions entre la MONUSCO et les populations. C'est en tout cas ce que pense Félix-Antoine Tshisekedi. En outre, le président de la République a confirmé la tenue des prochaines élections en RDC. Il a dit hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Province du Kwilu, ce SOS en faveur des orphelins des sœurs de la congrégation de charité des Namur à Bulungu. Tous les biens de ces enfants sont partis en fumée après l'incendie de leur bâtisse le dimanche dernier. Le feu serait parti de la batterie qui alimente le bâtiment, rapporte la sœur responsable de l'orphelinat. Et puis, l'invité de ce midi, Augustin Mangemossi, chercheur à l'Institut panafricain des relations internationales et stratégiques en RDC. Il analyse les enjeux de la suppression pour les Congolais des visas d'entrée en Tanzanie et au Kenya. Madame, Messieurs, bonjour. L'actualité reste marquée par le discours du président de la République à la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York, aux États-Unis. Dans son adresse, Félix-Antoine Tshisekedi a affirmé qu'il est temps que la MONUSCO se retire de la RDC plus de 20 ans après son arrivée pour permettre au pays de devenir l'acteur de sa propre stabilité. Le chef de l'État a également demandé au Conseil de sécurité de sanctionner tous les auteurs des crimes en RDC, notamment le Rwanda sous couvert du M23. Tout en saluant les sanctions des États-Unis contre certaines autorités rwandaises, il a réaffirmé son refus de négocier catégoriquement avec le M23. On écoute Félix-Antoine Tshisekedi.
Je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées.
Toutes nos excuses, là vous suiviez plutôt le président de la République par rapport au fait qu'il a présenté la RDC comme pays solution au changement climatique et a appelé à la réforme du Conseil de sécurité par l'intégration des deux pays africains comme membres permanents de cet organe de l'ONU, et les efforts de la RDC en matière de lutte contre les violences sexuelles ont aussi été dans ce discours que vous venez d'entendre. À présent, on va encore écouter le président de la République à propos de la MONUSCO. Il a dit que la MONUSCO doit quitter la RDC d'ici décembre 2023. On l'écoute.
Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Tel est le sens de la démarche actuelle de notre gouvernement, qui a adressé un courrier au président du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 1er septembre 2023, sollicitant l'accélération du retrait de la MONUSCO. En sus du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice matériels et intellectuels, des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais.
Ces propos du chef de l'État ont été recueillis par Alain Rungmushinj, l'envoyé spécial de Radio Kapi à New York. Journée internationale de la paix, c'est aujourd'hui 21 septembre. À cette occasion, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, vient de lancer officiellement le programme des ambassadeurs de la paix au Sud Kivu. Il s'agit d'environ 400 jeunes ambassadeurs des comités locaux de paix installés dans toutes les communes, quartiers et avenues. Ces ambassadeurs de la paix ont pour rôle de sensibiliser la communauté par des activités d'éducation à la paix, de prévention et règlement pacifique des conflits. Cette année 2023, le thème de la Journée internationale de la paix porte sur l'action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux. Les objectifs de développement durable visent à rapprocher les sociétés plus pacifiques, plus justes et inclusives. Je vous le disais en titre, province du Kwilu, incendie du bâtiment abritant l'orphelinat des sœurs de la congrégation de charité des Namur, située à la paroisse Saint-Guy à Djouma, dans le territoire de Bulungu, c'est depuis le dimanche dernier. D'après la sœur responsable de cet orphelinat, c'est la batterie servant à alimenter cette bâtisse qui avait pris feu pendant que tous les enfants assistaient à la messe. Aucune perte en vies humaines, mais des dégâts matériels importants, a dit la sœur Denise Moussema. Elle lance un cri d'alarme aux autorités provinciale que nationale, ainsi qu'aux personnes de bonne volonté en faveur de ces orphelins. Irène Boma, reportage.
À en croire la responsable de cet orphelinat, l'incendie s'est déclaré dans la mi-journée de dimanche dernier, pendant que tous les orphelins étaient à la paroisse pour la messe. La sœur Denise Moussema rapporte que le bâtiment du dit établissement charitable est complètement détruit et tous les biens nécessaires qui permettaient d'assurer la prise en charge des enfants sont partis en fumée, y compris les fournitures scolaires ainsi que les habits des enfants orphelins.
Il y a eu un problème de batterie, ça s'est explosé. Les lits, les casseroles, les matelas, tout a été brûlé. Mais Dieu merci qu'il n'y a pas eu d'incident par rapport aux enfants. On n'a rien récupéré.
Toujours d'après la sœur Denise Moussema, la prise en charge des enfants est devenue plus difficile dans cet orphelinat qui élève actuellement 58 enfants orphelins dont l'âge varie entre 0 et 15 ans. Elle lance un SOS.
Notre cri auprès des autorités, c'est de venir en aide. Ce sont des personnes vulnérables. Hein. D'abord les enfants et puis ils sont orphelins. Ce sera vraiment nécessaire pour les aider à aller à l'école et à manger et tout ça.
Il faut préciser que cet orphelinat détruit se trouve précisément dans la cité de Djouma, située dans le territoire de Bulungu en province du Kwilu, et appartient à la congrégation des sœurs de la charité des Namir de la paroisse Saint-Guy de Djouma. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Direction la province de l'Ituri, plus de 200 véhicules transportant des marchandises et des boissons gazeuses en provenance de Kisangani sont bloqués depuis environ un mois sur le tronçon Nyanya-Isiro. En cause, le mauvais état de cette route qui ne facilite plus les échanges commerciaux entre les provinces de l'Ituri et de la Tchopo. Des gros bourbiers rendent ce tronçon impraticable. Conséquence, les prix de plusieurs produits ont augmenté sur le marché. La Fédération locale des entreprises du Congo, FEC, appelle les autorités à intervenir. Ézéchiel Mouzalia. Voilà, la technique me fait signe que Ézéchiel n'est pas encore prêt. Nous allons nous rendre dans la province du Maniema. Le gouverneur intérimaire a visité mardi l'école primaire Lumamba en construction. Nous sommes à Muyengo dans le territoire de Kailo. Cette visite entre dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Deux bâtiments de 6 salles de classe sont déjà tollés. Le bureau est encore inachevé. La construction des latrines n'a pas encore commencé. La communauté parle déjà de suspension des travaux par la société Safricas qui les exécute. De son côté, la société civile évoque les difficultés d'approvisionnement en matériaux de construction. Plus de détails avec Florence Kizalunga.
Dans l'enceinte de l'école Lumamba, la population a accueilli les gouverneurs intérimaires avec la nouvelle disant que Safricas a arrêté les travaux à Kailo pendant que les enfants étudient dans des hangars et maisons de particuliers. Afan Idrissa promet de s'impliquer pour que les travaux s'achèvent.
Effectivement, je viens de voir, la construction est meilleure, mais le seul rapport que je viens de recevoir, ils sont à rupture d'approvisionnement des matériaux de construction. Et la construction du bureau est arrêtée à cause de l'approvisionnement. mais nous allons pousser pour que l'entreprise fasse diligence pour que les travaux de cette école puissent prendre fin et que les élèves reprennent le cours dans cette école.
De son côté, les responsables de la société Safricas appellent la population au calme car les travaux sont en cours. Alain Kabongo.
Que la population ne soit pas inquiétée, les travaux s'effectuent. Je crois que sur certains sites, ils ont remarqué peut-être un arrêt des travaux. C'est pas vraiment un arrêt parce qu'il y a des approvisionnements qui sont en train d'être faits en rapport avec les sites en question et d'ici la semaine prochaine, les travaux vont reprendre normalement.
Signalons que la remise de ces ouvrages était prévue pour ce mois de septembre 2023. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Retournons en Ituri. Je vous le disais tantôt, plus de 200 véhicules transportant des marchandises et des boissons gazeuses en provenance de Kisangani sont bloqués depuis environ un mois sur le tronçon Nyanya-Isiro à cause du mauvais état de la route. Ezekiel Mouzali nous en dit plus.
Il y a presque un mois, plus précisément le 10 août 2023, j'avais à l'occasion...
Le calvaire des usagers de la route nationale numéro 4 axe Nyanya-Isiro-Kisangani s'accentue ces derniers temps avec le retour des pluies qui la rendent impraticable. Plusieurs produits de première nécessité en provenance de Kisangani dans la province de la Tchopo comme le riz, maïs et des produits brassicoles arrivent difficilement à destination pour cause des bourbiers qui jonchent la route et bloquent la circulation. Plus de 200 véhicules qui l'ont emprunté il y a au moins 3 semaines sont bloqués sur l'axe Yakeke-Bafouassende où circuler est un vrai parcours des combattants. La Fédération locale des entreprises du Congo, FEC, s'est dit fortement inquiète de cette situation qui appauvrit davantage les habitants dont la plupart vivent autour du jour. Nzipaya Kalibala Cicéron.
C'est terrible. À partir de 163 jusqu'après 215 là-bas, c'est un calvaire parce qu'il n'y a pas de passage. Quand nous payons les taxes, c'est à contrepartie de la route. Les opérateurs qui viennent de Kisangani, Nyanya, ils entrent difficilement. Ça, c'est pas bien.
Plusieurs produits ont vu leur prix flamber. Un casier de qui coûtait 35 000 francs se vend aujourd'hui à 40 000 francs congolais. Le litre et demi d'huile de palme coûte 2 000 francs contre 1 300 précédemment. Des voix s'élèvent pour demander au gouvernement de régler cette situation qui affecte la vie de la population. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le ministère des Infrastructures et Travaux Publics a procédé hier au lancement officiel des travaux de construction de l'extension de l'Institut National de Préparation Professionnelle INPP Maluku dans la zone économique spéciale de Maluku. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, Alexis Guissaro, ministre des ITPR, s'est dit très satisfait du démarrage du premier grand chantier du projet Kinelenda au regard de ses nombreux domaines d'intervention visant l'amélioration des conditions de vie de la population de la ville de Kinshasa. Le ministre Alexis Guissaro des ITPR l'a dit au micro de Tati Mapoukou.
Il y a presque un mois, plus précisément le 10 août 2023, j'avais à l'occasion de la signature du contrat des travaux de construction du centre de formation professionnelle de l'Institut National de Préparation Professionnelle émis le vœu ardent et pressant de voir enfin démarrer, et ce après une très longue période de préparation, le premier chantier véritable du projet Kinelenda, un projet ambitieux et complexe, il faut l'avouer, au regard de la multiplicité des secteurs d'intervention et des intervenants. Aujourd'hui, nous sommes tous ici réunis pour procéder au lancement officiel des travaux sur ce site de l'INPP, et c'est pour moi un moment de joie profonde, car le train est enfin lancé. Le projet est donc effectif sur le terrain, et c'est le plus important car les bénéficiaires directs et toutes nos populations n'attendent que cela. Et je voudrais donc profiter de cette occasion pour réitérer en mon nom propre et au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo la reconnaissance de la population de Kinshasa à l'endroit de la Banque mondiale pour son accompagnement dans l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais à travers le projet Kinelenda.
Sud Kivu, journée ville morte décrétée ce jeudi sur toute l'étendue de la ville et le territoire d'Uvira. La jeunesse Fulirou, regroupée au sein de l'association SOGEF Mondial, a appelé la population locale à paralyser toutes les activités pour dénoncer l'acharnement contre les enfants d'Uvira qui sont arbitrairement révoqués, suspendus ou déstabilisés dans l'exercice de leurs fonctions dans l'administration publique. Explication, Fiston Goma Mayabala.
Dans sa lettre, le coordonnateur de la SOGEF mondiale, Olivier Balikoumouami Musegetera, exige le recrutement de la main-d'œuvre locale, faiblement représentée dans différents services de l'État à Uvira. Il réclame une représentation de 60% de la main-d'œuvre locale à la DGI, la DGRAD, l'INPP, l'OGEFREM, la DPMR, la CEP Congo, la DGDA, l'OCC, l'antifraude, le FPI et le SNCS. Depuis tôt ce matin, aucune école n'a ouvert ses portes. Pas de circulation ni marché. Toutes les activités sont paralysées dans la ville. Hier mercredi, au terme d'une réunion de concertation entre la mairie, les membres du conseil local de sécurité, la société civile et les organisateurs, le maire de la ville d'Uvira, Kizamuato, a interdit cette ville morte, appelant la population à vaquer paisiblement ses activités. L'autorité urbaine ainsi que les acteurs de la société civile ont qualifié cette initiative de tribale, ayant pour but de satisfaire les ambitions d'un groupe d'individus manipulés par les politiques. D'après la police, aucun incident majeur n'a été enregistré depuis le matin. Cependant, on pouvait observer des barricades à plusieurs endroits sur l'artère principale de la ville. D'Uvira Fistongo Mamayaba, la Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président nigérien déchu, Mohamed Bazoum, a décidé de saisir la justice ouest-africaine pour obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans son pays, le Niger. Cela, près de 2 mois après un coup d'État opéré par des militaires qui l'ont renversé et le séquestre jusqu'à ce jour. L'ONU a convoqué les gouvernements de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, du Qatar, ainsi que l'Union européenne et l'Union africaine, appelant à un soutien accru à l'action humanitaire au Soudan, ce alors que les voisins du Soudan font face à un afflux constant des réfugiés et des rapatriés.
L'invité.
Nous recevons le professeur Augustin Mangemossi, chercheur à l'Institut panafricain des relations internationales et stratégiques en RDC. Il est également enseignant des universités, spécialiste notamment des questions de politique infranationale. Dans cette interview accordée à Radio Kapi, il analyse les enjeux de la suppression des visas pour les Congolais d'entrée en Tanzanie et au Kenya. Il s'entretient avec Grace Hamzati.
Professeur Augustin Mangemossi, bonjour.
Bonjour.
Dans le cadre de l'adhésion de la RDC à l'EAC, désormais, les Congolais n'ont plus besoin de visa pour entrer en Tanzanie et au Kenya. Les deux États viennent de supprimer cette obligation. Quelle est votre lecture?
Merci, monsieur le journaliste. Merci aussi aux fidèles auditeurs de la radio Okapi. Le principe de la libre circulation des personnes et de leurs biens a toujours été fermement affirmé dans les actes constitutifs des organisations telles que l'EAC, la CDAO. Il n'y a rien de nouveau. La facilité de mobilité pour les citoyens congolais, que ce soit en Tanzanie ou au Kenya, c'est une très bonne chose que nous saluons. La seule préoccupation réside dans la question subsidiaire. Comment y aller si l'on n'a pas les moyens? L'on ne dispose pas de la capacité, mais aussi des moyens. Les autres pourront en bénéficier plus que nous, malheureusement. Mais sinon, l'idée est bonne.
Aujourd'hui, les Congolais ont cette facilité-là d'accéder au pays de l'EAC, mais il se pose encore un problème pour accéder au pays de la SADC et même de l'Afrique centrale. Comment vous analysez cette dynamique, professeur?
C'est-à-dire les pays de la SADC et une partie des pays de l'Afrique centrale ont leur propre marché intérieur qui est bien entendu moins développé. Ils ont des ressources pour se prémunir, mais aussi ils ont des capacités de pouvoir s'auto-réguler. Le problème, c'est qu'ils ont à la fois les moyens. Par exemple, quand vous prenez le pays de la SADC, c'est plus de 300 millions d'habitants. C'est un marché de plus de 300 millions d'habitants. Mais quand vous prenez le 6 pays de l'EAC, si vous acceptez la RDC, ça ne fera que moins de 200 millions d'habitants. C'est d'ailleurs presque 198 millions d'habitants comme ça. Les 6 pays réunis. Donc vous voyez, la RDC seule a déjà presque la moitié de la composition du marché intérieur de l'EAC. Donc quoi de plus normal pour le pays membre de l'EAC de pouvoir arrimer la RDC dans cette organisation? Je pense que la peur vient de la concurrence parce que les autres viendront avec les moyens. Et où est-ce que nous allons trouver les moyens? Il faudrait plutôt créer une classe moyenne qui pourra répondre à cette préoccupation.
Certains opérateurs économiques du Nord Kivu estiment que cette mesure de supprimer le visa d'entrée en Tanzanie, tout comme au Kenya, est très avantageuse plutôt à ces deux pays que la RDC, car selon eux, notre pays ne produit presque pas à cause de l'insécurité. Ce n'est pas vouloir une chose et son contraire. Qu'en pensez-vous, professeur?
C'est vrai que la RDC ne produit pas, mais il appartient à l'État congolais de mettre en place une vraie politique d'investissement et de production pour permettre au pays de produire. C'est plutôt la peur de la concurrence, comme je l'ai dit, qui viendrait des produits importés de l'Asie et du marché de l'océan Indien qui va plutôt inonder les marchés congolais et mettre en difficulté pas seulement les opérateurs économiques de l'Est, mais aussi ce qu'on appelle les sociétés qui sont ici au Congo. Mais on ne va pas toujours traîner à dire que nous ne produisons pas. Il faut maintenant commencer à produire. Parce que même si nous fermons nos frontières pour aujourd'hui, demain, quel serait le lendemain? Donc nous allons toujours nous retourner à la case du départ.
Et selon vous, quels sont les avantages sur le plan pratique pour le moment de cette mesure pour les Congolais?
Bon, au fait, pour les Congolais, les avantages, je dirais, ne sont pas vraiment quantifiables. Il faut plutôt jouer à moyen et à long terme, pas à court terme. À court terme, il y aura un grand déficit sur notre balance commerciale, malheureusement, mais nous devons nous préparer. Nous n'avons pas de choix. Et certes, il y aura des avantages pour les opérateurs qui utilisent l'axe Est vers l'Asie, vers l'océan Indien. Pour eux, ça sera avantageux, mais pour les autres. Quand vous voyez la SADC avec la RDC, ou mieux la CAC avec la RDC, c'est pas la même question. De l'autre côté, c'est plutôt les investissements. Et moi, je propose toujours que nous partions des principes d'une solidarité stratégique d'abord. Parce que quand nous voulons faire le commerce avec l'autre, nous devons nous poser à nous-mêmes la question, qu'est-ce que nous avons? Alors, mais quand nous voulons aller ensemble, là, nous n'allons plus nous poser la question de ce que nous avons, mais plutôt de ce que nous allons gagner.
Professeur Augustin Mangemossi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité est chercheur à l'Institut panafricain des relations internationales et stratégiques en RDC. Il répondait aux questions de Grace Amzati. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikotachi Vueta. Martin Sebujango est la supervisée et Dieudonné Nyangasa la mise en onde. Merci.